ensemble.
Espace Océan, Ariel Cassim.
Bonjour, l'apnéiste français Loïc Leferme a été victime d'un accident de plongée, c'était le 11 avril de cette année, dû à une défaillance du système de contrepoids. Et il y a quelques années, c'était en 1999, au mois de juillet, le photographe sous-marin Sophie De Wild disparaissait aussi dans un accident de plongée. Mais il faut savoir que la plongée sous-marine n'est pas synonyme d'accident. Il y a les extrêmes, ceux qui prennent peut-être un petit peu plus de risques, mais la plongée sous-marine, eh bien, c'est aussi une façon de vivre. C'est aussi participer à certaines joies en découvrant les fonds marins, à des bonheurs, mais il y a aussi quelques dangers. Alors nous allons pouvoir parler aujourd'hui de la plongée sous-marine avec des spécialistes. Il s'agit d'Alain Forêt, qui est moniteur de plongée, membre de la Fédération de plongée, auteur de plusieurs ouvrages sur la plongée sous-marine et co-éditeur d'une histoire de la plongée qui paraît aux éditions Subaqua, un livre que vous avez écrit, Alain Forêt, avec Pierre-Martin Razi, qui lui est aussi moniteur de plongée, rédacteur en chef de Subaqua et auteur d'ouvrages sur la plongée et la photo sous-marine et aussi sur l'histoire de la plongée. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous parler de votre livre qui paraît, et aussi peut-être de revenir sur ses exploits, par exemple celui de Loïc Leferme que vous avez bien connu, Pierre-Martin Razi.
Oui, je l'ai connu dans le cadre de mon activité professionnelle de journaliste et puis de passionné d'apnée. J'ai suivi les apnéistes depuis pas mal d'années, Mayol, Pellizzari, et Loïc Leferme était dans la grande lignée de tous ces apnéistes. Et au moment où nous avons bouclé donc une histoire de la plongée avec Alain, eh bien, nous avons dû refaire une légende qui nous a un petit peu fait mal au cœur. Eh bien, c'était celle de Loïc Leferme, puisqu'au moment où on bouclait le livre, Loïc a disparu au cours d'un entraînement à plus de 170 mètres de profondeur.
Quelles étaient vos impressions, Alain Forest, sur Loïc Leferme?
C'était un grand apnéiste. On peut le comparer à des alpinistes qui tentent des ascensions dans l'Himalaya. C'est l'extrême, hein. Ça n'est pas du tout la pratique de monsieur et madame tout le monde. C'était un apnéiste de l'extrême qui connaissait les risques et qui malheureusement l'a payé de sa vie. C'est très triste. On pense à ses proches aujourd'hui, à sa famille évidemment. Mais il ne faudrait pas confondre cette pratique extrême avec la pratique de loisir qui est très répandue, la randonnée subaquatique, l'apnée, qui elle est sans commune mesure avec cela. Hein. Il faut comparer la pratique au quotidien de la plongée, c'est la balade en forêt. Et là, on parle de l'ascension de l'Himalaya, quoi.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite Loïc Leferme, cet apnéiste tout à fait hors du commun.
Ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'élément dans ce qu'il y a de plus fort. Donc forcément, avec peu de choses entre l'élément et moi. Et l'apnée est un bon moyen pour le faire. La démarche d'un record, c'est un objectif. Pas seulement un objectif personnel, un objectif d'équipe. On est une bande de copains qui vivons un rêve, une aventure depuis une quinzaine d'années maintenant. Et l'idée, au départ, c'était de faire cette discipline et de continuer à le faire. Pour continuer à le faire, il faut que ça dure. Et pour que ça dure, il faut qu'on fasse un minimum n'importe quoi. Donc un maximum de sécurité. Alors, pour atteindre 171 mètres, je mets à peu près 2 minutes de descente et 1 minute 30, 1 minute 40 de remontée, ce qui fait une plongée d'un peu moins de 4 minutes. Ça, c'est la plongée qu'on appelle communément nos limites. Moi, j'appelle ça profondeur absolue. On utilise un engin pour descendre et on remonte à l'aide d'un ballon assisté. La plongée libre, c'est à la palme. Et là, on utilise des monopalmes la plupart du temps.
Comment c'est au fond de l'eau, Loïc?
Alors, en grande profondeur, il y a une grosse pression, donc on est très comprimé. Surtout les parties aériennes, les parties où il y a de l'air, les poumons notamment. Il faut accepter la pression.
Vous souffrez?
Absolument pas, non. Donc voilà, il y a cette grande pression en grande profondeur et il faut réussir à s'adapter, à trouver une place comme ça. Il y a un petit peu d'effet de narcose, hein, on se sent un peu l'ivresse des profondeurs, que j'arrive à maîtriser au fur et à mesure des entraînements. Il ne fait pas forcément très chaud. Donc tout est un peu, on est un peu ankylosé au fond, on n'a pas envie de respirer. On n'est pas non plus comme dans son hamac, hein, et donc l'idée quand même c'est d'arriver au fond et de repartir tout de suite. D'avoir juste atteint l'objectif et revenir. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête un truc, je sais pas ce que c'était, l'envie de faire des choses qui me paraissaient entre guillemets extraordinaires, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et tout l'est à la fois. La démarche de l'apnée me convient tout à fait et c'est ce que j'ai toujours recherché au fond de moi, je pense. Ce sentiment d'être de la protection de l'eau, de la verticalité en même temps, d'un certain engagement en même temps. Et d'aller à un endroit où jamais personne n'est allé, parce que je suis curieux de nature et j'ai envie de découvrir.
Voilà, Loïc Leferme, un garçon extraordinaire qui, hélas, nous a quittés suite à un accident de plongée. Alors là, justement, c'est intéressant parce qu'il nous explique comment c'est vraiment la plongée de l'extrême, commencer au fond de l'eau, la compression, etc. C'est un cas un peu à part. Aujourd'hui, avec vous, nous allons remonter l'histoire de la plongée et la plongée, si je puis dire, peut-être la plongée aventure, la plongée plaisir, la plongée de Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui, Pierre Materazzi et Alain Forêt. Vos impressions sur ce que vient de dire quand même Loïc Leferme, vous qui l'avez bien connu, c'est touchant.
C'est touchant, c'est une quête individuelle qui est très très spécifique, très particulière, qui est réservée à une élite. Le plongeur lambda, la famille qui veut aller découvrir les fonds sous-marins, elle va s'attacher plutôt à la découverte du monde sous-marin, va être sensibilisée en tant qu'observateur privilégié à sa protection également, parce que plus de gens mettront la tête sous l'eau, plus ils verront les beautés du monde sous-marin et seront sensibilisés à sa protection. Quand on apprend à connaître le monde sous-marin, à approcher des espèces, c'est un des rares endroits où on peut approcher des animaux dans leur environnement, des animaux sauvages, en quelques minutes. Oui. L'approche qu'on peut avoir sur Terre pour approcher des animaux sauvages est beaucoup plus compliquée. Sous l'eau, c'est très facile. Et du coup, la recherche principale que l'on peut avoir en randonnée palmée, en randonnée subaquatique, en plongée en scaphandre, c'est ça, c'est aller découvrir le monde sous-marin, sortir avec de belles photos ou de belles vidéos, faire partager ça à ceux qui ne plongent pas, les amener à la plongée, partager son plaisir.
Et vous nous faites partager l'histoire de la plongée, parue donc aux éditions Subaqua. Quand a commencé cette histoire, Pierre Materazzi ?
L'histoire de la plongée, elle a commencé avec les hommes, mais on en a la première trace au 7e siècle avant Jésus-Christ. Homère y fait référence dans l'Iliade et l'Odyssée, et Aristote en parle aussi, les Romains plongeaient, les Grecs évidemment plongeaient, les pêcheurs d'éponges. Il y avait des plongeurs dans les armées antiques, et puis on en a trace aussi au Moyen-Âge, et puis plus récemment, 18e siècle, 19e siècle avec l'arrivée de l'industrie, et puis évidemment l'explosion au 20e avec la société de loisirs.
Tout ça dans un livre qui fait 800 pages quand même. Est-ce qu'on peut exprimer trois temps qui auraient marqué justement cette évolution de la plongée aujourd'hui ?
Nous considérons qu'elle est née en 1927 avec le commandant Yves Le Prieur, qui l'a présenté au Trocadéro. C'était un commandant de la marine qui avait inventé un détendeur qui permettait de respirer sous l'eau, mais qui, lui, l'avait considéré comme une manière pour le grand public de découvrir les fonds sous-marins. Et il s'est appliqué à faire venir les gens à la plongée en faisant des démonstrations donc à l'aquarium, en créant un club pour faire venir donc de nouveaux adeptes, de manière à ce qu'ils puissent aller plonger ensuite sur la côte. Et tout ça est né en même temps qu'une modification sociale avec l'apparition de l'automobile, avec l'apparition des transports, avec l'apparition des congés payés. Ça, c'est vraiment le début de la plongée sous-marine de loisirs. Le deuxième temps fort de la plongée, effectivement, c'est après-guerre, quand Cousteau a mis en place son détendeur et a commencé à tourner ses premiers films. Donc la réalisation du monde du silence, qui a obtenu la Palme d'Or, puis un Oscar à Hollywood, donc en 56.
De Louis Malle.
Et le troisième temps fort, c'est donc Le Grand Bleu, de Luc Besson, 88, qui a réellement été un boom pour le développement de la pratique.
Ouais. Ensuite, après ce film, il y a eu énormément de plongeurs. Tout le monde a découvert ce que c'était que la plongée. Et il n'y a pas eu tant d'accidents que ça, en fait, ainsi, quand même, à la forêt.
C'est toujours très difficile parce que on sait, nous qui pratiquons, que la plongée n'est pas une activité à risque. Hein. Tout à l'heure, Loïc Leferme parlait de milieu hostile parce que lui va dans les extrêmes. Nous, on n'est pas confronté à ce milieu hostile, on est au contraire confronté à un milieu doux. Il est vrai qu'un certain nombre de personnes pratiquent en dehors des règles élémentaires. Et c'est là qu'en 1988, il y a eu pas mal d'accidents parce qu'en fait, des gens sont allés à la plongée comme s'ils allaient aux champignons. Et il se trouve que la plongée, ça se déroule dans l'eau. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute activité qui se déroule dans l'eau, comme on n'est pas un poisson, eh bien, il peut y avoir quelques risques. Mais pas plus que d'aller se baigner dans une piscine ou d'aller se baigner en mer. Aujourd'hui, la plongée est clairement encadrée. Et quand on va dans des structures qui encadrent la pratique, eh bien, on l'a fait avec sans aucune prise de risque. Et c'est ouvert à tout le monde, des enfants dès l'âge de 6-8 ans, selon que l'on fasse de l'apnée ou bien de la plongée bouteille. Et puis ensuite, ben, il n'y a pas de limite d'âge, jusqu'à 88 ans, 90 ans, 95 ans, tout va bien.
Vous abordez donc la plongée loisir, mais est-ce que vous abordez aussi la plongée qui est une activité en soi, qui est un travail? Il y a les plongeurs des mineurs, par exemple, il y a les photographes qui font la plongée.
Nous l'évoquons parce que, bien évidemment, tout est lié et les progrès qui ont été faits dans le domaine professionnel ont été tout bénéfice pour la plongée de loisir, notamment dans le domaine médical où il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées. Donc effectivement, on ne peut pas dissocier la plongée de loisir absolument de la plongée professionnelle ou de la plongée militaire. Oui. Mais nous nous sommes quand même appliqués à axer notre bouquin sur la plongée plaisir.
Aujourd'hui, les appareils numériques permettent, avec un petit caisson qui ne coûte plus très cher, de l'utiliser sous l'eau. Et ces 3-4 dernières années ont vu la photo numérique sous l'eau accessible à tout le monde.
Et quand vous parlez de cette promenade de sous-marine, de cette activité, de ces randonnées subaquatiques, c'est-à-dire on part en famille avec masque, tuba, et on va évoluer au fond de l'eau.
On alterne entre la surface et le fond. Le parcours est généralement balisé. Il y a maintenant un petit peu partout en France, que ce soit sur la côte Manche-Atlantique ou bien sur la côte méditerranéenne, et puis évidemment dans tous les départements d'outre-mer, il y a des sentiers sous-marins qui sont balisés. Et on a un parcours à réaliser. Et tout au long de ce parcours, un certain nombre d'espèces sous-marines à rencontrer, que ce soit des espèces fixées, des gorgones ou bien des poissons. Et ça peut se pratiquer en famille. Le principal risque de la randonnée subaquatique, c'est le coup de soleil. Hein. Donc il faut mettre de la crème, voire même un petit t-shirt ou une petite combinaison, même quand l'eau est chaude. Parce que quand on fait ça pendant 2-3 heures, le principal risque, vraiment, c'est le coup de soleil. Quoi, c'est tout. Et ça peut se pratiquer dans 2, 3, 4, 5 mètres d'eau. C'est accessible à tout le monde avec une formation rudimentaire au départ. En quelques minutes, on est opérationnel et on peut y aller.
Est-ce qu'à travers votre livre, vous avez eu envie justement d'attirer ceux qui n'ont pas l'habitude de plonger, qui ne connaissent pas trop la mer, à la découverte de la plongée? Est-ce que ça faisait partie de votre objectif aussi, vous qui êtes de la Fédération Française de Sport et de Plongée Sous-Marine?
Oui, bien sûr, on veut faire partager notre activité, notre plongée à tout le monde, et surtout aux jeunes, parce que les océans sont menacés. On sait que le corail, à 50 ans, on ne sait pas s'il y aura encore du corail sur la planète, alors que ça fait partie des plus belles plongées que l'on puisse réaliser aujourd'hui sur les fonds de coraux. On ne sait pas s'il y aura encore des réserves de poissons dans 50 ans. Ce monde-là, très fragile, qui est peut-être en train de disparaître, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient sensibilisés, qui aillent le voir, qui aillent voir les espèces sous-marines. Et une fois qu'on a rencontré ces espèces sous-marines dans leur élément, après on n'a plus du tout le même regard, et on se doute bien qu'il faut protéger les océans le plus possible. Et ça, les enfants sont extrêmement réceptifs à ça.
Est-ce que le travail de Cousteau a été considérable dans ce domaine, Pierre-Martin Hazy?
Il a été énorme, à bien des égards. D'abord techniquement, parce que c'est lui qui a initié quand même le fameux détendeur Mistral, qui a été la clé pour le monde sous-marin. C'est lui qui a permis aux gens d'aller facilement sous l'eau, parce que c'était un détendeur pratique, fiable, relativement confortable. Et ensuite, Cousteau, c'était un communicant avant l'heure. Il a su utiliser le cinéma, puis la télévision comme outil de promotion, et ça c'est formidable. C'est quand même lui qui a été un des premiers à dire attention, la mer est fragile et il faut la préserver. Bon, c'est une prise de conscience qui a été possible parce qu'il a effectivement été voir un petit peu partout. Il a vu l'évolution dramatiquement rapide de la mer et de ses fonds.
Alors évidemment, vous consacrez quelques lignes à Rouquayrol et Denerouze.
Deux inventeurs, un officier de marine et un ingénieur des mines, à Véronais, qui se sont associés pour mettre au point un détendeur, d'abord pour aller dans les mines. Et il se trouve que, comme il y avait un officier de marine, il y avait quand même la notion d'eau et de mer, et qu'ils se sont dit que le détendeur pouvait tout à fait fonctionner aussi dans l'eau. Et donc, ils ont développé ce produit, qui était un produit tout à fait novateur, parce que c'était un détendeur qu'on dit à la demande, c'est-à-dire que le plongeur respire, normalement, comme vous et moi ici dans ce studio, et à de l'air comme il faut, même s'il y avait un petit réservoir sur le détendeur Rouquayrol et Donnerose. Mais nous parlons quand même des années 1860-1870, c'est pas hier. Et le prieur a réinventé un détendeur qui était beaucoup plus simple d'utilisation, et puis il était lié à la bouteille d'air comprimé qui venait de l'industrie automobile. Et puis surtout, le génie de le prieur, ça a été d'ouvrir au grand public.
La bouteille d'air comprimé est arrivée à la plongée donc par Michelin. À l'époque, les voitures crevaient beaucoup, les pneus n'étaient pas très efficaces et donc il fallait s'arrêter sur le bas-côté, faire comme avec les vélos en fait. Hein. Et donc pour faciliter cette phase-là de regonflage, ils avaient mis des bouteilles d'air comprimé à bord des voitures de manière à ouvrir la bouteille et puis que le pneu se regonfle tout de suite sans avoir à utiliser une pompe et à se fatiguer. Et l'idée de le prieur, ça a été de dire, on va prendre cette bouteille d'air comprimé, on va l'adapter, on va l'amener sous l'eau et on va couper le cordon qui nous relie à la surface. Le plongeur s'est retrouvé à ce moment-là libre de toute entrave et puis il a suffi qu'ensuite en 1933 Louis de Corlieu invente les palmes pour que le plongeur puisse évoluer entre deux eaux et ne plus marcher sur le fond de la mer. Il s'est retrouvé en équilibre dans l'eau comme les poissons. Mmh. Et ça, c'est vraiment le départ de la plongée de loisir.
La plongée, c'est aussi la découverte des fonds sous-marins grâce à des photos. Je vous propose d'écouter Sophie de Hult qui était une grande photographe sous-marin qui savait nous ramener à travers son objectif, eh bien, la fragilité de ces espèces marines. Elle a participé aussi à de nombreux ouvrages avec Yves Pacalet, par exemple, pour nous parler de la fragilité de la Méditerranée. Sophie Kélas aussi a disparu, mais là n'est pas notre propos. Nous l'écoutons tout simplement.
Ah, c'est carrément le nirvana pour moi. Je veux dire, je me sens en apesanteur. Je ne sais pas si ça a une relation fœtale, mais je veux dire, c'est vraiment le grand bonheur de sentir son corps, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une part de yoga et la connaissance complète de ses poumons, parce qu'une simple petite inspiration ou expiration vous fait monter, descendre, et puis se fondre aussi un peu dans le décor, faire partie des meubles et ne pas effrayer donc les animaux. La seule chose qui parfois peut les déranger, ce sont effectivement ces lumières que l'on est obligé d'avoir pour révéler ces couleurs, puisque l'eau filtre les rayons solaires et c'est ce qui donne la lumière, la couleur aux choses. Et parfois, même pour un petit spirographe qui vous a senti parce que l'onde a bougé, vous êtes passé entre lui et le soleil, donc il est rentré dans son tube, eh bien, je peux rester 15 minutes, 20 minutes, tout dépend encore une fois de la profondeur, mais quand je veux quelque chose, généralement, je l'obtiens.
Dans votre livre, vous abordez donc ces personnages qui ont su aller nous proposer et découvrir les fonds marins. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution aussi à travers leur regard à eux ?
Quand vous parlez de gens comme ça qui ont un regard particulier sous l'eau, je ne peux que penser à Albert Falco, qui lui a vécu la calanque de Sormiou, par exemple à Marseille dans les années 30-40, et a vu ce que c'était, a vu toute l'évolution, a accompagné Cousteau pendant 37 ans et demi, qui plonge toujours à l'heure actuelle, qui mène de beaux combats en Martinique, en particulier avec son ami Michel Méthéry, pour essayer de faire qu'il y ait des réserves qui soient mises soit en Martinique, soit en Guadeloupe, de manière à favoriser l'émergence de petits poissons, que les petits devenant grands, etc. Et le regard a forcément évolué, parce que c'est plutôt l'homme qui est un prédateur pour l'animal et pas l'inverse. Et je crois que c'est cette prise de conscience qu'on a eue tous en 40-50 ans. Et aujourd'hui, les rivières, les mers sont totalement polluées. Mmh. Non, je crois qu'aujourd'hui, il est trop tard pour les 30 à 40 ans qui viennent. En revanche, on travaille pour dans un siècle. Et un siècle, c'est nos petits-enfants, hier petits-enfants, etc. Il faut penser à eux.
Tout cela, donc, c'est ce que vous nous proposez à travers votre livre, Une histoire de la plongée, aux éditions Subaqua. Merci beaucoup pour cette visite sous-marine que vous venez de nous proposer. Bon vent. Merci encore.
Merci à vous.
Merci à Cécile Bonici pour la réalisation d'Espace Océan, mise en onde par Enguerrand de Sade. Alors évidemment, restez quand même très prudents si vous plongez, plongez toujours à deux. Bon vin à tous et bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à la mer. Au revoir et merci.